Bonjour, je m'appelle Jason. Je vous présente la classe 3HA d'Estavayer-le-Lac. Notre école se trouve au Sacré-Cœur. Nous sommes 10 filles et 9 garçons. Théa va vous présenter notre thème.
Nous avons changé le thème, moi et mon corps, à l'école. Nous avons étudié les parties du corps. Nous avons cherché des trucs pour être en forme. Nous pensons que c'était bien de manger équilibré, de bien dormir, de faire du sport et de se relaxer. Nous avons parlé des animaux.
Particulier dans un village dont le nom m'a échappé. Il faisait des souliers si jolis, si légers, que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter. Il y mettait du temps, du talent et du cœur. Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui. Un simple professeur qui pensait que savoir était un grand trésor. Tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir que l'école et le droit qu'à chacun de s'instruire. Il y mettait du temps, du talent et du cœur. Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait vivre de lui.
Bonjour, je m'appelle Hugo, voici Lara.
Voici
Vania.
Pour être en forme, nous trouvons qu'il faut manger de tout. Nous accueillons Isabelle Azizi qui va nous parler de la nutrition. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Quel est votre métier ?
Alors je suis coach en nutrition. Ça veut dire que je conseille les gens comment bien manger, comment manger équilibré. Si par exemple il y a des gens qui aimeraient perdre quelques kilos ou s'il y a des gens qui aimeraient savoir... qu'est-ce qui est bon à manger pour sa santé, pour être en forme.
Quel est le repas le plus important de la journée ?
Alors on peut dire que tous les repas sont importants, mais surtout quand on a votre âge, le petit déjeuner c'est très important, parce que c'est ça qui va nous aider à être en forme tout au long de la journée, avoir de l'énergie pour jouer, pour bien réfléchir à l'école. Donc le petit déjeuner c'est très important.
Que nous conseillez-vous de manger à ce moment-là ?
Alors ce qui serait bien, c'est d'avoir toujours quelque chose à boire, par exemple un verre de lait, ou bien un thé, ou bien de l'eau, d'avoir par exemple une tartine, du pain avec de la confiture, du beurre ou du miel, et puis d'avoir toujours un fruit, ça c'est très important.
À quelle heure nous conseillez-vous de manger le souper ?
Alors ça dépend, ça peut être entre 6h et 7h le soir. Ça dépend aussi ce que vous avez mangé au goûter, si vous avez mangé au goûter.
Que nous proposez-vous comme récréation pour être en forme ?
Alors comme récréation, ce qu'on peut prendre, c'est déjà quelque chose à boire, mais de l'eau, parce que l'eau c'est très important, c'est ça qui va hydrater notre corps. Et puis vous pouvez prendre un fruit, et ça dépend, des fois vous pouvez prendre un bout de pain avec un bout de chocolat, ou peut-être un produit laitier, par exemple un yaourt ou un bout de fromage.
Quand on rentre de l'école à 4 ans, on aime bien manger quelque chose. Pouvons-nous manger du pain au chocolat?
Oui, tu peux manger du pain et du chocolat. Parce que tu as passé toute la journée à l'école, tout l'après-midi, tu as peut-être fait du sport, tu as beaucoup réfléchi, alors c'est normal d'avoir faim quand on rentre à la maison. Et puis, ça peut être bien de manger du pain et du chocolat, mais ce qui est important aussi, c'est de manger un fruit avec. Parce que chaque jour, il faudrait manger des fruits. Et puis comme ça, ça te permet de bien tenir jusqu'au souper.
Est-il interdit de manger des bonbons?
Non, c'est pas interdit de manger des bonbons, mais raisonnablement. Ce qu'on peut faire, c'est mettre une petite, toute petite poignée dans la main, et si ça tient dans la main, c'est que c'est la bonne portion.
Qu'est-il faut boire?
Ce qui est bien de boire, c'est surtout de l'eau. Parce que l'eau, c'est très très important pour notre corps. Et puis, on peut boire aussi, par exemple, du lait. Et puis, si on n'aime pas trop l'eau, parce qu'on se dit, mais ça manque de goût, on peut mettre, par exemple, des petits bouts de fruits dedans, du jus de citron, et puis, de temps en temps, un petit peu de sirop.
Que faut-il boire?
Ben, l'eau, c'est vraiment le plus important. C'est ça qu'il faut boire en priorité.
Est-ce qu'il est grave si on ne mange pas de légumes?
Alors, manger des légumes, c'est très, très important. On dit que chaque jour, il faudrait manger des fruits et des légumes, 5 en tout. Ça veut dire qu'on devrait manger 2 fruits, par exemple, une pomme et puis une banane, et puis 3 légumes, 3 portions de légumes. Par exemple, si à dîner, tu manges de la salade et puis des carottes, ça fait déjà 2. Et puis le soir, peut-être que tu vas manger des tomates, et puis ça, c'est important. Après, c'est sûr, on n'aime pas tous les mêmes légumes, des fois, c'est un peu difficile. Alors, on peut des fois dire à nos parents de les faire en soupe, de faire des gratins, de faire des purées, les manger crus, les manger cuits. Puis des fois, il faut les essayer plusieurs fois. Moi, par exemple, j'aime pas trop le fenouil. Alors, j'ai dû essayer plusieurs fois d'en manger de façon différente. Et puis voilà, j'ai trouvé plusieurs façons qui m'allaient, puis j'en mange quand même.
Quel est votre fruit préféré?
Alors, mon fruit préféré, c'est le kiwi, parce que c'est facile à manger. Et puis, il y a plein de bonnes vitamines pour être en forme et puis pas être malade. Et puis, si on mange un kiwi par jour, eh ben, on a plein de vitamines pour toute la journée.
Quel est votre légume préféré?
Alors, comme légume, moi, j'aime bien les carottes. Parce que les carottes, il y en a tout le temps, il y en a toute l'année. Et puis, on peut les manger crues, on peut les croquer comme ça, comme des petits lapins. On peut aussi les manger en salade, on peut faire des soupes, on peut les cuire, on peut faire plein de choses avec les carottes. Et puis... C'est une belle couleur, alors c'est très très bon pour la santé.
Quel conseil vous nous donnez pour terminer?
Alors ce que je vous dirais pour terminer, c'est que il faut avoir du plaisir quand on mange, c'est important. On ne peut pas tout aimer, mais l'important c'est de manger de tout. Essayer de goûter, même si on finit pas l'assiette, même s'il y a des choses qu'on n'aime pas. L'important c'est de goûter et puis manger de tout.
Merci Isabelle d'avoir répondu à notre question. Au revoir.
Au revoir, merci à vous.
Je suis montée dans Bonjour, je m'appelle Oxane, voici
Naël
et voici
Mathéo.
Pour rester en forme, on pense que c'est bien de faire du sport. Avec la classe, on fait de la gym, du patin et de la natation.
Des enfants, après l'école, font du sport fac, des autres avec des sociétés comme le football, le tennis ou le karaté.
Nous pratiquons le sport comme loisir. Certains sportifs en ont fait leur métier. Nous sommes heureux d'accueillir Julien Sprunger, hockeyeur professionnel, capitaine Fribourg-Gottéron. Bonjour Julien.
Bonjour.
Quand avez-vous commencé le hockey ?
Alors moi j'ai commencé le hockey quand j'avais 3 ans et demi. J'avais ma grande sœur qui faisait du patinage artistique et puis j'allais toujours la voir à l'entraînement. Je voulais aller sur la glace et puis mes parents m'ont acheté des patins, m'ont acheté une canne et ensuite m'ont mis à l'école de hockey à l'âge de 4 ans.
Quand avez-vous su que le hockey serait votre métier ?
Alors c'était mon rêve. Tout petit, j'avais vraiment ce rêve de devenir hockeyeur professionnel, de pouvoir jouer sur cette patinoire avec tout ce public qui nous regarde. J'ai dû travailler très dur, très longtemps. J'ai commencé à 16 ans mon premier match professionnel, donc ça fait quand même quelques années d'entraînement. Et puis à cet âge-là, j'avais vraiment envie et comme objectif de faire ça comme métier.
Est-ce que c'était facile d'aller à l'école en même temps d'aller au hockey ?
Alors non, c'était pas facile. Je faisais du hockey et du foot plus petit. Donc entre l'école, le foot et le hockey, ça faisait beaucoup de temps pris. L'hiver le hockey, l'été le foot, en plus les devoirs. Mes parents m'ont toujours aussi obligé d'avoir des bonnes notes et de bien travailler à l'école. Si je n'étais pas bon à l'école, je pouvais pas aller à l'entraînement. Donc c'était pas toujours facile, il fallait trouver un bon emploi du temps. Mais au final, j'ai quand même réussi à gérer tout ça.
Combien d'heures passez-vous par semaine sur la glace ?
Alors, je ne sais pas exactement le nombre d'heures, mais on s'entraîne tous les jours du lundi au samedi, plus ou moins entre une heure et quart sur la glace. Et puis encore les matchs. En général, on joue le mardi, le vendredi et le samedi. Un match, ça dure 60 minutes, mais on est sur la glace déjà une heure avant le match. Et puis, ça dure plus ou moins deux heures. Donc, je ne sais pas exactement le nombre d'heures, mais tous les jours, on patine minimum une heure.
Que mangez-vous pour être en forme ?
Alors, pour être en forme, je mange assez varié. On a eu aussi un professionnel qui est venu nous aider, qui nous a expliqué ce qui était bon de manger avant les matchs, ce qui était bien de manger après les matchs aussi. Certains aliments sont meilleurs que d'autres. Avant les matchs, on mange du poulet ou de la viande rouge, des pâtes, beaucoup de légumes aussi. Ça change des fois, on essaie de varier un petit peu entre les pâtes, du quinoa, du riz, des patates, on mange un peu varié, mais ce genre d'aliments sont très importants pour un sportif pour être en forme.
Quand vous êtes malade, est-ce que vous allez quand même au match ?
Alors quand je suis malade, en général non. Si on est malade, c'est comme quand on va à l'école. Si on est malade, on reste à la maison pour pas contaminer tous les coéquipiers, tous les copains non plus. Et puis c'est vrai que le hockey ou tout autre sport demande énormément physiquement. Donc dès qu'on est malade, on essaie d'éviter. Après, des fois, si on n'a pas trop de fièvre, qu'on n'est pas trop malade, on fait un effort et puis on essaie d'aller jouer. Mais dès qu'il y a de la fièvre, on a vraiment l'interdiction de jouer.
Est-ce que vous rigolez avec vos coéquipiers dans le vestiaire ?
Alors, on rigole beaucoup. Les jours de match, un petit peu moins. Quand on doit se concentrer pour les matchs, qu'on doit être prêt, là, c'est assez sérieux. Mais sinon, les autres jours à l'entraînement, on rigole vraiment beaucoup. Nous, on n'a pas de maîtresses qui sont là pour nous surveiller. Donc, on aime bien rigoler et puis s'amuser dans les vestiaires.
Est-ce qu'un autre sport vous intéresse ?
Alors, j'aime bien beaucoup de sports, voire tous les sports. J'adore en pratiquer. J'adore jouer au foot, j'adore jouer au basket, au tennis, au squash. Pendant l'entraînement d'été, quand on n'a plus la glace parce qu'il fait trop chaud, on essaie de faire d'autres sports, donc des matchs de foot, on fait du badminton, du squash. Tous ces sports sont bons pour l'entraînement et moi j'adore ça, j'ai besoin un peu de me dépenser et puis de bouger, donc j'adore pouvoir faire d'autres sports aussi.
Maintenant une petite pause, Julien, avec une chanson que vous aimez bien.
Endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge
étendu sur la terrasse. Et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement plus d'un million d'années. Et toujours en été. Y'a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Y'a plein de chiens. Y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'un million d'années. Et toujours en été.
Je m'appelle Malik, voici Lara et voici Amélia. Quel est le moment où vous éprouvez le plus de plaisir sur la glace?
Alors moi sur la glace, je suis attaquant et le moment qui me fait le plus de plaisir, où j'ai vraiment, je trouve ça un excellent moment, c'est quand on marque un goal et qu'on gagne un match. C'est vraiment génial, on peut laisser exploser notre joie. Et puis aussi les gens qui sont dans le public, il y a 5-6 000 personnes qui crient, qui sont contents. Et ça, c'est mon moment préféré.
Entendez-vous le public pendant les matchs?
Alors oui, on entend le public, ça nous aide, on aime bien. Justement, quand ils chantent des chansons, qu'ils jouent du tambour, qu'ils donnent de l'ambiance, qu'ils sont là, ça aide. Et puis on aime vraiment ça en tant que joueur, de sentir vraiment ces gens qui nous poussent.
Avez-vous des trucs pour rester en forme?
Alors, on fait énormément d'exercices. Tous les jours, justement, on s'entraîne sur la glace, on s'entraîne en dehors de la glace aussi. C'est très important, justement, de garder la forme physique. On fait du vélo, on fait du stretching, on fait de la musculation. Parce que pour nous, notre corps, c'est vraiment notre outil de travail. Et il est important de bien en prendre soin, de le soigner avant le match, après le match. On a aussi des gens qui sont là pour nous faire des fois des massages, ou si on a des petits bobos pour nous aider à nous soigner. Et puis aussi avec la nourriture, c'est très important. On doit bien manger, bien boire pour vraiment essayer d'avoir notre corps qui est en pleine forme.
Pouvez-vous nous expliquer comment se passe une journée d'un match?
Alors, par exemple demain on va jouer à Genève. Alors demain, on a rendez-vous à 8h15, 8h30 à la patinoire. On prend le petit déjeuner tous ensemble. Là, on mange des œufs, on mange des céréales, on mange du pain, du miel, on boit du jus de pomme. Ensuite, on va dans le vestiaire. Là, on a une petite vidéo, donc on a l'entraîneur qui nous prépare une petite vidéo. On regarde l'équipe adverse, donc Genève, comment ils jouent, ce dont il faut faire attention, des petits détails comme ça. Par la suite, on va se préparer, on fait un peu de vélo, d'étirement pour être bien chaud pour aller sur la glace. On va sur la glace. un petit moment. Après la glace, on fait un peu de vélo nouveau, un peu stretching pour le corps. On va manger ensemble avec l'équipe. On mange tous ensemble encore une fois à midi. On rentre à la maison faire une petite sieste et vers 3h, on part pour Genève. Donc on prend le car jusqu'à Genève où on arrive à peu près 3h avant le match. On prépare nos affaires, on prépare nos cannes aussi pour le match. Et puis ensuite, on joue le match. Donc à la fin du match, on rentre. Ça fait des grosses journées. On rentre jamais avant minuit en général. Et puis samedi, on a de nouveau un match et ça repart la même chose.
Pouvez-vous nous expliquer comment vous arrêtez de patiner avec des enfants?
Alors ça arrive de temps en temps, oui. Chaque joueur doit aller plus ou moins une fois par mois avec les plus petits. Il y a les bambini qui sont vraiment les tout petits qui commencent le hockey. Les mosquitos, les piccolos, ce sont d'autres catégories. Donc chaque semaine, il y a un joueur qui va avec ses équipes pour faire un peu l'entraîneur, pour aider l'entraîneur. Et puis les enfants aiment bien avoir justement les joueurs de la première équipe qui viennent, qui montrent des fois des petits gestes techniques. Les gardiens aiment bien qu'on leur shoote un peu dessus, essayer d'arrêter nos pucks. C'est des moments que les joueurs apprécient beaucoup.
Y a-t-il des moments difficiles en hockey?
Alors bien sûr, quand on joue et qu'on perd, on n'aime pas trop ça. Je pense que personne n'aime perdre, mais dans le sport, c'est notre métier, donc on n'aime pas perdre. Il y a aussi des blessures qui peuvent arriver. Se faire mal, c'est jamais rigolo, donc c'est ça un peu les moments les plus difficiles.
Quel est votre meilleur souvenir de hockey?
Alors, j'ai le souvenir d'avoir marqué des goals importants qui ont fait gagner des matchs, gagner notre équipe. J'ai eu la chance de pouvoir participer une fois aux Jeux Olympiques aussi. C'était un rêve aussi depuis que j'étais enfant d'aller aux Jeux Olympiques. Donc c'est un des souvenirs les plus marquants qui me reste en tête.
Quel est votre souvenir le plus drôle en hockey?
Le plus drôle? Alors sur les patins, souvent on met une sorte de protection pour pas casser les lames, parce que les lames sont très fragiles et elles coupent très fort. Mais il faut faire attention à les enlever, parce que si on essaie d'aller sur la glace avec les lames, on prend une sacrée gamelle. Et puis un jour de match, un joueur a complètement oublié d'enlever ses protections en rentrant sur la glace. Il était tout content, il voulait patiner à pleine vitesse, mais il a pris une sacrée gamelle et puis il nous a bien fait rire. Mais heureusement, il ne s'est pas fait mal.
Merci Julien d'avoir pris le temps à répondre à nos questions et bon succès pour la suite.
Merci beaucoup.
Le sport, c'est tellement bien pour la santé que même les animaux essayent de faire comme nous. Notre chanson part de Wistiti qui aime faire du ski, Gros Dindon qui aime faire du ski de fond et Lapin qui aime faire du patin.
Je connais un Wistiti qui aime bien faire du ski, mais parfois quand je le vois, il a l'air très maladroit. Des fois il fait comme ça, des fois il fait comme ça. Moi je crois qu'il va décringoler. Des fois il fait comme ça, des fois il fait comme ça. Moi je crois qu'il va tomber. Je connais un gros dindon qui aime faire du ski de fond, mais parfois quand je le vois, il a l'air très maladroit. Des fois il fait comme ça, des fois il fait comme ça. Moi je crois qu'il va dégringoler. Des fois il fait comme ça, des fois il fait comme ça. Moi je crois qu'il va tomber. Je connais un gros lapin qui aimerait faire du patin, mais parfois quand je le vois, il a l'air très maladroit. Des fois il fait comme ça, des fois il fait comme ça. Moi je crois qu'il va dégringoler. Des fois il fait comme ça, des fois il fait comme ça. Moi je crois qu'il va tomber.
Bonjour, je m'appelle Robin. Aujourd'hui, nous allons faire un petit jeu sur les animaux. J'accueille Jason et Hugo. Je vais leur poser des questions sur les animaux. Jason et Hugo, êtes-vous prêts?
Oui.
Quel est le plus grand animal du monde?
C'est la baleine bleue.
Bravo Hugo, un point pour toi. Attention, question suivante. Quelle est la différence entre le crocodile et l'alligator?
Je sais.
Nous t'écoutons, Jason.
Le museau du crocodile est plus long et plus fin que celui de l'alligator.
Oui, Jason,
un point partout. Attention, question suivante. Qui saute le plus loin, la grenouille ou le crapaud?
Les crapauds, ils sont plus costauds.
Les grenouilles, elles ont de plus longues jambes.
C'est Hugo qui a raison, les grenouilles ont de plus longues jambes. Attention, question suivante. Pourquoi le coq chante-t-il tous les matins?
Je ne sais pas.
Je crois qu'il faut demander à Robin.
Je vais vous faire trois propositions. A. C'est pour réveiller les poules. B. C'est pour effrayer le renard qui passe tous les matins. C. C'est pour montrer qu'il est le chef.
Je crois que c'est pour réveiller les poules tous les matins.
Je crois plutôt que c'est pour montrer qu'il est le chef.
C'est Jason qui a raison. Le coq se lève tous les matins pour défendre son territoire. Puisque vous êtes 2 points partout, je vais vous faire une dernière question pour vous départager. Qu'est-ce qu'est la Doug TV?
C'est une télévision en forme de chien.
Non, Jason, je vais vous faire 2 propositions. Est-ce que c'est une chaîne de télévision qui montre des courses de chiens ou une chaîne de télévision pour les chiens?
Je crois que c'est une télévision qui montre des courses de chiens, ça doit être intéressant.
Moi, j'essaye de dire que c'est une télévision pour les chiens.
C'est Jason qui a raison. Oui, des Américains ont pensé à passer des films pour les chiens qui sont tout seuls sans leur maître. Il n'y a que des couleurs pâles, mais il n'y a pas de rouge ni de vert car il ne white pas. Jason a remporté ce petit quiz. Bravo aussi à Hugo qui s'est très bien défendu.
Et maintenant, un peu de musique pour vous détendre. Il s'agit d'un extrait du carnaval des animaux du coq qui essaye de faire taire les poules.
J'accueille 2 nouvelles candidates. Georgetta et Lara, êtes-vous prêtes?
Oui.
Pourquoi les flamants roses sont-ils roses?
C'est parce qu'elles mangent des crevettes.
Bravo, Lara. S'ils mangent pas assez de crevettes, ils viennent griller. Question suivante. Quel oiseau vole à l'envers?
C'est le colibri.
Bravo, Lara. Le colibri est un tout petit oiseau qui peut même voler sur place comme les hélicoptères. Lara, t'as déjà 2 points. Quelle est l'activité préférée du jet des scènes?
Je ne sais pas. Aide-nous.
C'est un oiseau brun avec de belles plumes rayées noires et bleues. Est-ce qu'il préfère se balancer en bronze ou prendre des bains de fourmis?
Prendre des bains de fourmis.
Non, ça doit lui gratter.
Georgetta a raison. Certains oiseaux se couchent dans les fourmilières. Les fourmis croient qu'ils sont faits attaquer. Ils crachent du produit acide qui va dans des plumes, des ailes, qui vont chasser toutes les autres petites bêtes. C'est pratique se laver en mangeant. Georgetta, t'as déjà 1 point. Savez-vous pourquoi la chatte Millie était engagée?
Non.
Non.
3 idées. A. Chasser les souris dans un magasin de jouets. B. Jongler avec des petites balles dans un numéro de cirque. C. Détecter de la drogue dans les aéroports.
Pour travailler au cirque.
Non, Georgetta, veux-tu répondre?
C'est pour chasser les souris dans un magasin.
Bravo, Georgetta, t'as trouvé Millie chasser, manger les souris dans un magasin de jouets en Angleterre. 2-2. Dernière question. Quel animal le plus rapide?
Le guépard.
Bravo, Lara. Tu as gagné le concours.
Bravo aussi à Georgetta. Maintenant, de la musique pour nos prochains invités pour se mettre en place.
Georgetta
et
Jessica.
Nous accueillons Monsieur Jean-Luc Charbon. Bonjour Monsieur Charbon.
Bonjour.
Quand avez-vous choisi de devenir vétérinaire?
Alors j'ai choisi ce métier à l'âge de 8 ou 9 ans, je ne me souviens plus exactement. Quand j'étais plus petit, je me réveillais très 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 tôt le matin et là j'avais décidé de devenir boulanger. Et ensuite, cette idée m'a passé, et à force de côtoyer mes copains d'école, qui étaient souvent fils de paysans, vu qu'on habitait à la campagne, de voir les animaux à la ferme, d'avoir aussi des chiens et des chats à la maison, j'ai eu envie de choisir ce métier.
Pourquoi avez-vous choisi de devenir vétérinaire?
Alors, d'une part, principalement, effectivement, parce que j'aime les animaux. Par contre, je me suis rendu compte avec le temps que ça ne suffit pas et que... Disons, ce n'est pas les animaux tout seuls qui vont venir chez le vétérinaire, il faut quand même quelqu'un qui les amène. Donc si on veut travailler avec les animaux, il faut aussi aimer les humains et aimer le contact avec les clients. Et si on est seulement amoureux des animaux, on n'arrivera pas forcément à bien travailler dans ce métier.
Est-ce que ce métier vous plaît toujours?
Oui, je dirais que le métier de vétérinaire me plaît toujours, en tout cas dans tout ce qui concerne le travail avec les animaux. C'est clair que de participer par exemple à la naissance d'un animal, si on peut aller aider un petit veau à sortir du ventre de sa maman ou faire une césarienne, que ce soit à une chienne, que ce soit à un autre animal, c'est toujours des travaux qui font plaisir. Je me suis toujours dit que le jour où, par exemple, je n'aurai plus de plaisir à me lever la nuit pour aller assister à un vélage, ça sera le moment de changer de métier, mais pour l'instant, j'ai toujours du plaisir. Je dois dire, même pour les choses moins spectaculaires, le fait de soigner des animaux, d'avoir des gens qui sont contents, qui nous disent merci après, c'est vraiment un métier qui est très plaisant.
Comment se passe une de vos journées de travail?
C'est assez difficile de dire exactement comment une de nos journées de travail se passe parce qu'elles sont toutes différentes et puis elles se composent aussi en grande partie d'imprévus parce que, en général, disons que notre journée de travail, comme je travaille dans un cabinet où on est plusieurs vétérinaires, on commence par se rencontrer ensemble vers 7h30, 8h le matin. On discute un petit peu des animaux qu'on a vus la veille, on essaye de s'organiser pour le travail de la journée. Et le matin, on part en principe plutôt s'occuper des animaux à la ferme, donc principalement les vaches. Et on rentre manger aux alentours de midi, sans que les horaires soient forcément fixés de façon très précise. Ça dépend un petit peu du travail et de la durée que le travail aura pendant la matinée. Et l'après-midi est plutôt consacré aux petits animaux, donc les consultations de chiens et de chats au cabinet, ainsi qu'au travail au bureau, donc... Qui dure en général jusqu'aux alentours de 6 heures. Et le soir, on est de garde pour s'il y a des animaux malades qui ont besoin de soins urgents. Et là aussi, j'ai la chance de travailler dans un cabinet où il y a plusieurs vétérinaires, ce qui fait qu'on n'est pas tous les soirs de garde et qu'on peut aussi passer des soirées tranquilles avec notre famille, mais en général, on est quand même, je dirais, un soir par semaine et un week-end par mois de garde pour si des animaux ont besoin d'être soignés en urgence.
Quels animaux soignez-vous ?
À l'intérieur du cabinet, je dirais, on soigne principalement des chiens et des chats, donc ça nous arrive aussi d'avoir des rongeurs comme les cobayes, les hamsters ou les lapins, très rarement des tortues, et quand on part à la campagne, on soigne principalement des bovins, donc les vaches, des vaches, des veaux, des vaches laitières et aussi des vaches allaitantes, qui sont donc les vaches dont le veau tête sa maman au pâturage. Et on soigne parfois aussi des cochons et des chevaux. Ça nous arrive aussi assez rarement d'avoir des moutons ou des chèvres, donc je dirais presque toutes les espèces qui peuvent qu'on peut trouver dans la région.
Y a-t-il des animaux que vous ne soignez pas ?
Je dirais que le critère principal pour ne pas soigner un animal, c'est surtout le fait qu'on n'est pas forcément compétent pour le soigner comme il faut. Par exemple, si un serpent vient en consultation et qu'on n'a pas vraiment reçu une formation dans les maladies des serpents, je préférerais l'envoyer chez un vétérinaire spécialisé. Il y a quelques vétérinaires qui sont vraiment spécialistes pour les animaux, je dirais, rares ou exotiques.
Avez-vous déjà travaillé dans un zoo ?
Oui, alors j'ai eu cette chance dans mes débuts. Quand la première place où j'ai travaillé comme vétérinaire, c'était à Moutier, dans le Jura bernois. Et il y avait un zoo tout près, donc là j'ai eu l'occasion de participer à la vie du zoo et aux soins vétérinaires à certains animaux. Je me rappelle une fois, par exemple, un yak à qui on a dû s'occuper de soigner les pieds. C'est clair que c'était une toute autre... Même si ça ressemble à une vache, c'est une toute autre façon de travailler qu'avec un animal vraiment domestique. Et un des animaux les plus spectaculaires, je dirais, que j'ai eu à soigner, c'était une lionne qui avait des problèmes pour faire ses petits, que finalement on a dû endormir avec un fusil, avec des seringues, un petit peu comme on peut voir à la télé dans différentes émissions. Et finalement, on a réussi à lui sortir le petit qu'elle avait dans le ventre. Je n'ai d'ailleurs pas réussi à le sortir moi-même parce que j'avais les mains trop grosses et j'arrivais pas à passer la main. Donc j'ai dû encore aller appeler une jeune fille qui travaillait au restaurant à côté du zoo. Je lui ai expliqué ce qu'il fallait faire et puis elle a réussi. Elle avait des mains plus fines que les miennes. Elle a réussi à aller sortir le petit lion qui était coincé. Et ensuite, on a pu soigner la lionne et elle a guéri. Donc... C'est des choses qui effectivement, disons, des souvenirs que je n'oublierai jamais, et puis qui font certainement partie des choses extraordinaires qu'on peut avoir l'occasion de vivre dans un métier comme ça.
Avez-vous parfois peur ?
Oui, ça m'arrive. Si je reprends l'exemple de la lionne, c'est clair que c'est pas le genre de patient qu'on va soigner, je dirais, de manière imprudente. D'ailleurs, pendant qu'on essayait de l'aider à sortir ses petits, il y a eu un moment donné où elle s'est un petit peu réveillée et puis qu'elle a failli manger le pied du directeur du zoo. Ben, ça, c'est le genre de moment qui fait un peu peur. Mais il n'y a pas besoin d'aller chercher seulement parmi les grands carnivores pour avoir peur. Je dois dire que des fois, il y a des... Par exemple, je me rappelle aussi une fois quand j'étais en Suisse allemande, près de Thun, où on est entré dans une écurie simplement pour aller s'occuper des vaches, et qu'il y avait un gros taureau qui était en liberté dans l'écurie parce qu'il s'était détaché, et que le paysan lui-même avait peur de ce taureau. Là, je dois dire que nous, on ne faisait pas les malins non plus, et je pense que c'est un des critères assez importants pour avoir peur, je dirais, c'est que si on sent que le propriétaire lui-même a peur de son animal, pour nous, ce n'est pas du tout rassurant. Que si le propriétaire maîtrise son animal, que ce soit un gros ou que ce soit un petit... En principe, nous, on est rassurés. Il ne faut pas qu'on fasse qu'on prenne des risques inconsidérés, parce que sinon, on risque de ne pas pouvoir pratiquer ce métier très longtemps.
Voici maintenant une chanson d'Henri Dès. Ça parle d'un enfant qui aimerait bien un animal de compagnie.
Je suis parti pour la ville, je suis parti ce matin.
Je suis parti pour la ville, je suis parti ce matin.
Faire les courses tranquille, acheter presque rien.
Faire les courses tranquille, acheter presque rien.
Juste un petit crocodile pour mettre dans mon bain.
Juste un petit crocodile pour mettre dans mon bain.
Juste un petit crocodile pour mettre dans mon bain.
Juste un petit crocodile pour mettre dans mon bain.
Oui, mais les crocodiles, ça vous mange la main. Ça n'est pas facile à mettre dans son bain.
Et ça n'est pas facile à mettre dans son bain.
Et ça n'est pas facile à mettre dans son bain.
Et ça n'est pas facile à mettre dans son bain.
C'est surtout inutile et c'est pas bien malin.
C'est surtout inutile et c'est pas bien malin.
Surtout si le crocodile veut te manger la main.
Surtout si le crocodile veut te manger la main.
Surtout si le crocodile veut te manger la main.
Surtout si le crocodile veut te manger la main.
Paraît que c'est difficile de s'en faire un copain.
Paraît que c'est difficile de s'en faire un copain.
Même s'il reste immobile, on n'est sûr de rien.
Même s'il reste immobile, on
n'est sûr de rien. On m'a dit qu'au Brésil, on en trouve tout plein.
On m'a dit qu'au Brésil, on en trouve plein.
Oui, mais pas dans les villes, ni dans les salles de bain.
Oui, mais pas dans les villes, ni dans les salles de bain.
Je suis revenu de la ville, je suis revenu ce matin.
Je suis revenu de la ville, je suis revenu ce matin.
Y avait pas de crocodile, j'ai choisi un requin.
Bonjour, je m'appelle Étienne avec
Melinda
et
Morgane.
Donc continuons de parler avec Monsieur Charbon. Quels sont les animaux que je peux avoir à la maison?
En principe, on peut avoir, je dirais, toutes les espèces d'animaux domestiques, donc des chiens, des chats, hamsters, cochons d'Inde, lapins. Il y a certains animaux qu'on peut avoir, mais pour lesquels on doit demander une autorisation. Par exemple, les furets, il faut demander une autorisation au service vétérinaire cantonal pour avoir le droit d'en avoir un. Et ce qui est en principe interdit, par contre, c'est les animaux sauvages. Donc on ne peut pas aller tout à coup capturer un animal dans la nature et décider de l'élever à la maison. Et si on veut des chiens, par exemple, c'est important de respecter aussi la législation. Maintenant, une personne qui veut un chien doit suivre des cours avant d'avoir son premier chien, de façon à lui donner des bases d'éducation et puis à aussi lui donner l'occasion de se familiariser avec d'autres chiens dans le groupe avec lequel il travaille. Donc, ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention, justement, si on veut prendre un animal, de réfléchir aussi un petit peu à ses obligations qu'on peut avoir et au travail qu'on aura peut-être à faire pour s'en occuper comme il faut.
Quel conseil pour choisir un animal et bien s'en occuper?
Alors, pour choisir un animal, je pense que c'est déjà important de bien s'informer d'abord sur les besoins de cet animal, aussi peut-être sur les choses que lui va vraiment pouvoir nous apporter. Dans le cas d'un enfant plus particulièrement, c'est bien aussi évidemment de discuter avec vos parents et de savoir si vos parents sont d'accord. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que beaucoup d'animaux vont vivre longtemps. Donc si à 7 ou 8 ans tu as envie d'avoir un chien, il faut bien penser que ce chien il va vivre peut-être 15 ans, 16 ans et que tu seras adulte quand ce chien sera encore vivant. Donc on ne peut pas tout à coup décider juste très vite de prendre un chien sans avoir bien réfléchi d'abord à ce qui va y avoir comme conséquence. Ce qui est important ensuite pour bien s'en occuper, c'est d'une part de connaître les besoins de l'espèce. Donc c'est vrai qu'un animal, même si c'est un animal domestique, c'est un animal qui avait disons, des ancêtres sauvages, et il faut savoir un petit peu peut-être dans certains cas comment ces ancêtres vivaient ou comment les espèces sauvages apparentées vivent actuellement. Par exemple, les hamsters sont des animaux qui, dans la nature, ont tendance à vivre plutôt solitaires. Donc, si on prend un hamster et qu'on le met seul dans une cage, il ne sera pas forcément malheureux. Et à l'inverse, les cobayes sont des animaux qui ont l'habitude de vivre plutôt en groupe. Donc, si on a un cobaye tout seul dans une cage, lui sera éventuellement malheureux. Je ne sais pas dans quelle mesure il se rendra compte qu'il est tout seul. Mais disons que c'est des choses qu'il faut connaître peut-être avant de prendre un animal. Et après, c'est clair que ce qui est important, bah, c'est aussi de bien s'en occuper. Un petit peu comme nous, il faut qu'il ait une nourriture équilibrée qui correspond à ses besoins. Il faut qu'il en ait une quantité adaptée à ses besoins aussi, parce qu'on a de plus en plus de problèmes, pas tellement d'animaux trop maigres, mais plutôt d'animaux trop gros. Et c'est important aussi qu'on prenne le temps, disons, de lui faire faire de l'exercice en fonction de ses besoins. Par exemple, un chien, il a vraiment besoin, il y a des races qui ont besoin plus que d'autres, mais il faut qu'ils aient de l'exercice régulièrement. Sinon, ça peut avoir des conséquences, d'une part, sur leur développement physique, mais aussi sur leur bien-être, psychique, et sur leur comportement.
J'ai encore une dernière question. Quel est votre animal préféré ?
Je dirais, dans mon cœur, l'animal ou l'espèce d'animaux que je préfère, c'est les chats. Je trouve que c'est des animaux qui ont un bon équilibre entre la familiarité avec l'humain, tout en gardant quand même une certaine indépendance, en sachant ne pas trop se faire marcher sur les pieds, mais en étant quand même affectueux quand ils estiment qu'on le mérite. C'est pas parce que j'aime les chats que je n'aime pas les autres animaux. Puis j'ai par exemple à la maison une petite chienne qui s'appelle Nouga, que j'aime beaucoup aussi. Et j'ai même maintenant une petite vachette nommée Marguerite que j'ai reçue en cadeau pour mon anniversaire, qui va certainement devenir ma vache préférée d'ici pas longtemps.
Merci Monsieur Charbon pour ces réponses intéressantes. Au revoir.
Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Thiago. Souvent la radio de la météo. Nous préférons vous chanter que la neige est tombée.
Ce matin, la neige est tombée sur la ville. Tout autour de moi a changé de couleur. Quand je prends la neige, j'ai ma neige si fragile que je voudrais bien la serrer sur mon cœur. J'ai mis de beaux souliers.
émission est presque terminée. Nous restons qu'à vous dire au revoir et merci pour nous avoir écoutés.
Souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir. Puisqu'on ne sera pas toujours là comme on le fut au premier pas, on vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout, sûrement tant de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix.
Lass, lass, und lass.